Augent en réadaptation avec un besoin d'entraînement plus doux pour les articulations. À ceux et celles qui veulent s'entraîner pour perdre du poids, aux mamans voulant retrouver la forme après un accouchement, et bien sûr aux enfants qui pourront y apprendre à nager ou simplement s'amuser dans les vagues pour des heures de plaisir. Même les gens en télétravail pourront faire quelques longueurs sur l'heure du midi. L'hydrofitness vous intéresse, mais vous avez déjà une piscine à la maison? Aucun problème! Que ce soit une trivie ou non, hors terre ou creusée, nos experts peuvent la convertir en piscine hydrofitness en y ajoutant un module de nage maintenant disponible au prix d'introduction de 5 999 $. Et pour vous motiver, Trivi vous propose gratuitement des programmes d'entraînement adaptés et toute une gamme d'accessoires tels que tapis roulant aquatique, vélo aquatique, haltères et bien plus encore. Trivi, plus que jamais, une longueur d'avance.
Plus de présence, moins de risques. Le service de patrouille qui change la donne. Avec Sécurité Québec, c'est la tranquillité d'esprit, même en pleine nuit. Patrouille de jour et de nuit. Surveillance active et rapports détaillés après chaque visite. Tu pars en vacances? Garde un œil sur ton terrain. Vol, vandalisme, bris. On est là avant que ça dégénère. Industriel ou commercial, après la fermeture, on vérifie tout. Porte barrée, aucun intrus. Des agents professionnels formés pour réagir vite. Parce que la sécurité, ça ne dort jamais. Sécurité QC.com.
Pour tous vos besoins en électricité, pensez Thibault Électrique. Installation de bornes électriques, chauffe-eau, thermopompe et remplacement de panneaux électriques. Faites affaire avec des électriciens certifiés. ThibaultElectrique.ca.
Avant l'événement Dormez mieux de Dormez-vous, j'essayais de m'endormir pendant que mon chum se retournait chaque 10 minutes et que notre chien rêvait qu'il chassait l'écureuil. Mais depuis qu'on a trouvé un matelas qui réduit le transfert de mouvement, je peux dormir même quand ça bouge. Parce que dormir sans interruption, ça change tout. Même Choupette est d'accord. Pendant l'événement Dormez mieux, obtenez jusqu'à 1000 $ de rabais sur les matelas Kingsdown sélectionnés. Seulement chez Dormez-vous. Faites vite, c'est pour un temps limité. Des conditions s'appliquent.
Salut, c'est Max de Barbecue Québec. Barbecue, accessoires, cours de barbecue de tous les niveaux, sauce, épices et plus encore. On a tout ce qu'il vous faut pour le barbecue. Ça fait plus de 15 ans qu'on vit et qu'on respire le barbecue. Viens jaser avec des passionnés. Québec, Boucherville et Laval, barbecuequebec.com. Bon barbecue.
Durant le Volksfest de Volkswagen, profitez d'offres exceptionnelles à 0% sur tous nos modèles.
Fait que le Taos, il est à
0%.
Puis le Tiguan,
0%.
Puis la Golf GTI,
ben, sont toutes à...
Ah! Ben là, je t'ai eu, par exemple.
0% aussi, Pierre-Luc. Qu'est-ce que tu comprends pas dans tous nos modèles?
Non, je comprends. C'est juste que c'est vraiment des bonnes offres pour des voitures très le fun à conduire. Là.
Durant le Volksfest, profitez de financement à 0% jusqu'à 60 mois sur le Taos et jusqu'à 24 mois sur tous les autres modèles. Faites vite, l'offre prend fin le 30 avril 2026. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Volkswagen.
300$ pour l'épicerie? Me semble qu'on a presque rien.
Avant, avec 200$, on pouvait faire une grosse épicerie. Ça n'a pas de bon sens.
Le premier ministre, Mark Carney, avait déclaré qu'il serait jugé sur les prix à l'épicerie. Mais de nouveaux chiffres démontrent que le Canada affiche l'inflation alimentaire la plus élevée des pays du G7.
Ferme la radio.
Je pensais que ça allait être différent avec Carney.
Moi aussi, c'est vraiment rendu cher.
Avec les libéraux de Mark Carney, c'est pareil. Il n'y a rien qui a changé.
Autorisé par l'agent principal du Parti conservateur du Canada.
Choix. Hell yeah!
Choix.
98.
Yeah! 98.
1. Radio X.
Choix.
À Québec, c'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion. Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh. Radio X.
Talk more about what may or may not be coming out of hibernation up near Chatham. CTV's Robert Lothian is here. Robert, we're talking about Bigfoot and apparently, quote, credible sightings of the cryptid up in that neck of that woods. And we are not calling these credible sightings. There are actually experts in the field of Bigfoot that use that label.
Yeah, you're right there, Travis, experts. And these are people who have tracked thousands and thousands of reported sightings right across North America. Now, over the past week, the legend of the Bigfoot has made its way right across Chatham, Kent, with some of these reported Squatch sightings. It's not without skeptics who feel there's something hairy about these reports.
And as we saw there, and as you mentioned in the story, you did not see Bigfoot while you were up there.
Bunnies, birds, squirrels, Travis. Unfortunately, on this expedition, there was no Bigfoot, no Sasquatch.
So we're going to have to send you up again tomorrow, and the next day we're going to have to get to the
bottom. Bon vendredi, bienvenue dans les Radio X-Files. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, on rejoint Christian Page. Christian, bonsoir, bon vendredi.
Oui, bonsoir, Nick.
Donc, pas de Bigfoot en Ontario?
Non. Écoute, il fallait voir ça parce que c'est ce qu'on vient d'entendre. Je vais le replacer un peu dans le contexte, oui. Mais c'était vraiment hilarant. C'était deux journalistes du réseau CTV qui animent l'émission le bulletin du soir à Windsor en Ontario, donc la station CTV de Windsor en Ontario. Et il faut savoir qu'au cours des dernières semaines, il y a eu des signalements d'apparition de Bigfoot. Et finalement, tout ça est abouti au bureau de CTV. Ils décident de faire un reportage sur le sujet. Et donc là, on a comme, dans la première partie, on a les deux journalistes qui parlent. Et puis on voit, on pouvait le lire littéralement dans leur visage. Tu sais, le genre de gars qui veulent pas être là ou ils veulent pas parler de ça. Là, tu sais, là, on les sentait là, très mal à l'aise. Donc, on avait à la fois le journaliste qui est l'animateur du bulletin de nouvelles et on avait le journaliste qui s'était rendu sur place pour colliger les témoignages. Et là, donc, on les voit au début, ils sont là très mal à l'aise. Ils disent, bon, on a des récits, des témoignages crédibles. Et c'est pas nous qui disons que c'est crédible, c'est ça, des experts. Et là, on a l'autre journaliste qui répond, celui qui est allé sur le terrain, il dit, oui, des experts. Et puis là, on a comme une petite pause. Il y a le reportage qui a été montré, dont je n'ai pas retenu l'extrait. Ouais. Et puis après ça, quand il revient dans le studio, il dit, d'après, comme on a pu le voir, tu n'as pas vu de Bigfoot. Et là, il dit, non, j'ai vu des oiseaux, des écureuils, mais pas de Bigfoot. T'sais. Et l'autre, en rajoutant, en disant, là, peut-être qu'on va te renvoyer demain pour que... Écoute, c'était le numéro en soi, le de voir vraiment deux journalistes qui n'avaient vraiment pas envie d'être là pour parler de ce sujet-là. C'était un peu comique. J'en ai parlé d'ailleurs... hier, à l'émission du retour avec Danny.
Oui, j'ai entendu.
Tu l'as entendu. Donc, on a parlé un peu des apparitions du Bigfoot en Ontario. J'ai même fait entendre à l'émission d'hier une espèce d'extrait en 2013, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens en Ontario, comme un peu partout, là, des gens qui s'intéressent aux ovnis, aux histoires étranges et tout ça. Et puis, ces gens-là, collige en fait les observations qui sont rapportées. Et puis en 2013, ils avaient reçu un enregistrement d'un soi-disant Bigfoot. Puis d'après ce qu'on en pouvait en déduire, le Bigfoot était en train de chanter. Fait qu'on avait une trentaine de secondes où on entendait le Bigfoot chanter. Puis ça se terminait avec un... On avait l'impression que le Bigfoot disait « thank you » à la fin. Un peu plus, puis il relevait son col, puis il aurait dit « thank you very much
». Oh my God!
Elvis has left the building. Écoute, c'était un peu hilarant. Mais bon, qu'est-ce que c'est que ces histoires de Bigfoot? Ben, comme je l'ai mentionné, c'est un truc qui a été présenté au bulletin de CTV. Et on rapportait trois observations de ce Sasquatch dans le sud de l'Ontario. Quand je dis le sud, on est vraiment dans la pointe sud de l'Ontario, sur les bords du lac Erie, juste au moment où on arrive à peu près à la rivière Détroit, parce que de l'autre côté de la frontière, c'est la ville de Détroit. Donc, on a cette vaste région qui est, en fait, on dit que c'est la région de Chatham-Kent, mais en fait, c'est une grande région qui regroupe plusieurs petits villages qui ont été regroupés en une grande agglomération. Et c'est une région qui a beaucoup de représentants des Premières Nations qui vivent dans cette région-là. Et évidemment, les légendes de Bigfoot, Sasquatch sont très omniprésentes. Et donc là, on a trois observations qui ont pris place sur trois journées différentes. Donc la première observation a été rapportée le 3 avril dernier. On était à Dresden. Et là, des témoins ont rapporté une silhouette noire de 2,10 m qui était à la lisière de la forêt. Il était tôt le matin. Là. Il était à peu près 6h15 du matin. Et puis ensuite, le lendemain, le 4 avril, à Thamesville, on est toujours dans la même région, on a une créature d'environ 2,40 m qui a été rapportée. Elle avait, dit-on, une fourrure couleur cannelle. Des empreintes de pas ont été également trouvées sur place. Et les témoins également avoir entendu ce soir-là des espèces de coups frappés dans le boisé, un peu comme si quelqu'un avec une branche frappait sur un tronc d'arbre.
Un appel.
Et puis, c'est ça. Donc, il était 17h35. Et puis ensuite, le 5 avril, on est à Ragland, qui se trouve toujours dans le même secteur. Là, des témoins ont rapporté avoir vu une créature noire de 2,10 m qui se tenait debout près d'un arbre. Donc ça, ce sont les trois témoignages. Quand on dit, bon, est-ce que ce sont des témoignages sérieux? Bon, entendons-nous, là, ces témoignages-là, des gens les ont, bon, les ont colligés et ensuite, éventuellement, les ont transmis à une... Je ne sais pas trop comment la définir, mais bon, il existe un site web, des gens qui sont impliqués dans ce site web qui s'appelle The Bigfoot Mapping Project. Okay. Donc, la carte sur le projet de carte sur le Bigfoot. Et ce qu'eux cherchent à faire, c'est éventuellement de marquer sur une carte de l'Amérique du Nord l'ensemble de toutes les observations de Bigfoot qui ont été rentrées, qui ont été rapportées, et donc les montrer par région, par État, et avec une base de données, avec chacun des témoignages qui a été colligé et rapporté. C'est un travail colossal. Et ici, la question n'est pas de savoir si on croit ou non au Bigfoot. Il faut quand même le dire, ce projet-là est un projet très ambitieux. D'autant plus si on prend en compte que des observations du Bigfoot, précisons, pour les gens qui nous écoutent, le Bigfoot, c'est le nom qu'on lui donne aux États-Unis. Au Canada, on l'appelle plus généralement le Sasquatch. Donc, on parle ici d'une créature simiesque, mi-homme, mi-gorille, qui marche debout, qui fait entre 2 mètres et 3 mètres de haut. Là. On en a abondamment parlé il y a quelques semaines lorsqu'on a parlé du film Patterson-Gimlin.
Ouais.
Donc, on avait abondamment parlé de cette histoire-là. Donc, évidemment, les observations du Sasquatch, elles remontent au Sasquatch ou Bigfoot, peu importe le nom qu'on lui donne, sont des observations qui dans certains cas, remontent dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, à partir du moment où des gens, des explorateurs, on parle bien sûr des hommes blancs qui pénètrent le territoire autochtone, dans des régions qui étaient très inhospitalières, quasi inaccessibles, ces gens-là ont été rapidement confrontés apparemment à des empreintes de pas mystérieuses, soit dans la boue, soit dans la neige. Et là, bien évidemment, additionnés aux légendes autochtones locales qui parlaient d'habitants qui vivaient dans des régions reculées, des hommes sauvages, etc. Peu à peu, le mythe s'est transformé et puis il a pris racine de cette manière-là. Donc, si tu as le projet projet très ambitieux de mettre sur une carte l'ensemble des observations rapportées, ben, tu dois également faire un travail d'archiviste. Hein. Tu dois fouiller dans les archives de journaux quelles sont les observations qui ont été rapportées dès le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait, ou à tout le moins, c'est ce qu'ils tentent de faire. Ils ont déjà des milliers d'observations qui ont été signalées, plus de 3000 observations qui ont été entrées sur la carte. Et on voit, bien sûr, ce qui se dégage, c'est que ce sont surtout les régions côtières qui sont les plus marquées par ces apparitions de Sasquatch ou de Bigfoot. Hein. Et on parle les États du Nord, les États du Nord-Ouest américain, hein, donc le nord de la Californie, et ensuite on a l'Oregon et l'État de Washington, et ça déborde bien sûr sur le Canada, de la Colombie-Britannique jusqu'au Yukon, on peut même aller jusqu'en Alaska. Et ensuite, les régions qui sont très proches, là, comme par exemple au Canada, on a l'Alberta, où on a beaucoup d'observations de Sasquatch. Et ensuite, bon, aux États-Unis, tu as l'Ohio, qui est une région qui est assez fertile en observations. Bref, au Canada, toutes les provinces canadiennes ont leurs histoires de Sasquatch. On en a eu au Québec, par exemple.
Mm-hmm.
Il y a des observations qui ont été rapportées.
Ah oui, même au Québec.
Oui, principalement, au Québec, ce sont principalement la région des Monts Valin qui se trouve là au Saguenay, où on a rapporté des observations de Sasquatch. Il y a quelques années, d'ailleurs, je rappelais à nos collègues du retour hier que dans les années 80, par exemple, fin des années 80, début des années 90, il y avait une espèce de garde forestier de mémoire qui avait vu des empreintes de Sasquatch. Et puis, il avait transmis l'information à un bon ami à moi qui s'appelait Yvon Leclerc, qui habitait Trois-Rivières, qui est décédé maintenant. Et Yvon était passionné par ces histoires de Bigfoot. Donc, il s'était rendu sur place, il avait fait des moulages où on voyait une espèce de gros pied. Et pour Yvon Leclerc, c'était clair que ça ne pouvait pas être une supercherie. Donc, forcément, c'était un pied de type mécanique qui avait fait l'empreinte. Donc, le pied s'était déposé, il avait roulé sur l'arche du pied, les orteils s'étaient soulevés en dernier. Donc, loin de ce qu'on aurait pu, s'attendre s'il s'agissait d'une espèce d'empreinte, un pied qui avait été taillé dans le bois, qu'on aurait fabriqué un peu comme une sandale pour marcher dans la boue pour faire des fausses empreintes. Pour Yvon Leclerc, il est clair que la créature qui avait laissé cette empreinte était une créature, un animal bien vivant. Moi, personnellement, je n'ai pas été convaincu de ça, mais bon, c'est ce qu'il disait. Mais bon, il n'est pas le seul. C'est pas le seul exemple ou incident. Il y a des dizaines d'observations, de rapports qui proviennent de cette région des Monts Valin, où des gens disent avoir rencontré des Bigfoot ou avoir observé à tout le moins des empreintes ou des traces qui laissaient supposer la présence de ces Sasquatch. Mais toutes les provinces canadiennes ont leurs récits, leurs observations, sauf l'île du Prince-Édouard, où là, on a aucune observation de Sasquatch. Mais toutes les autres provinces canadiennes, incluant même Terre-Neuve, ils ont des récits, des rapports qui parlent de ces hominidés inconnus. Aux États-Unis, ce sont tous les États, sauf l'île d'Hawaï, où là, on n'a pas d'observation de Sasquatch. Mais tous les autres États, donc tous les États continentaux, ont des récits d'observation avec, évidemment, des régions qui sont plus propices que d'autres. J'ai mentionné la côte ouest des États-Unis, mais on a aussi des foyers là, très importants. L'Ohio est un foyer important, la Pennsylvanie et l'État de New York. On a aussi beaucoup d'observations de l'État de New York et le Vermont. Là. Les montagnes blanches, les Green Mountains, sont des régions qui ont été marquées par de nombreuses apparitions. Mais bon, bref, c'est toujours un peu la même problématique, hein, même si on a des observations qui se multiplient. La problématique est toujours, est-ce qu'on a des évidences matérielles? Et comme je l'ai mentionné lorsqu'on avait parlé de cette fameuse émission qui avait été à peu près consacrée à l'histoire du film Patterson-Gimlin, en dehors des images, et on avait d'ailleurs cette image, ce film qui tenait un peu le haut du pavé, mais qui était complètement discrédité au cours des dernières semaines, avec la découverte, faut-il le rappeler, d'une bobine de film qui était passée inaperçue. En fait, elle était gardée dans un coffre depuis une cinquantaine d'années maintenant. Et cette bobine a révélé des tentatives de films tournées par Patterson et Gimlin un an plus tôt. Donc, on les voit en train de, entre guillemets, de faire des pratiques avec le fameux costume qui va devenir célèbre avec leur film. Donc, à partir du moment où on a ces films de pratique, il devient évident que le film lui-même, tourné en octobre 1967, est une supercherie. Mais ça tenait le haut du pavé et c'était l'élément, la grande évidence que l'on présentait lorsque les défenseurs du dossier Bigfoot voulaient dire « ben voilà, le Bigfoot existe ». Maintenant que le film est tombé, il reste très peu d'évidence. Hein? Je l'ai déjà mentionné dans des émissions précédentes, puis je pense que je l'ai évoqué également avec nos collègues d'hier. Au tournant des années 2010, là, on est en 2012, 2013, quelque chose comme ça, il y a Brian Sykes, qui est un professeur de génétique à l'Université d'Oxford en Angleterre, qui lui décide d'offrir aux amateurs de cryptozoologie, hein, c'est comme ça qu'on appelle l'étude, entre guillemets, des animaux inconnus de la science. Donc, il dit aux cryptozoologues qui s'intéressent principalement au dossier des hominidés inconnus. Ça inclut le Sasquatch, le Bigfoot, mais on parle également du Yeti dans les montagnes du Népal et du Tibet. Là. On parle du côté de la Russie. Dans les régions de l'Oural, on parle de l'Almasti. En Chine, on l'appelle le Yaren. En Australie, on l'appelle le Yaoi. Donc, Brian Sykes, qui est un scientifique, propose à tous ces gens-là de dire, ben voilà, si vous avez des évidences matérielles à l'appui de l'existence de ces créatures, ben envoyez vos échantillons et moi, je mets mon laboratoire à votre disposition. Parce que c'est souvent ici le discours oui. des amateurs, hein, comme autant dans le domaine des ovnis que dans d'autres domaines des fantômes ou n'importe quoi, dans l'univers du paranormal, le discours, c'est souvent de dire, nous avons des preuves, mais malheureusement, les scientifiques ne s'y intéresse pas. Donc, je suis allé dans une maison hantée, on a capté des sons, on a capté des images, mais quand on veut proposer ça aux scientifiques, ils lèvent le nez, ça ne les intéresse pas. Donc, on n'a pas la caution, on n'a pas la validation du matériel que l'on détient. Et donc, Brian Sykes a voulu un peu court-circuiter ce discours-là en disant, ben là, évidemment, je ne peux pas analyser des films de fantômes. Et puis, bon, à moins que vous ayez un petit bout d'extraterrestre ou une soucoupe volante, là, mais là, pour l'instant, si on s'arrête à la cryptozoologie, ben, tous ceux qui prétendaient avoir des échantillons, soit des poils, soit des excréments, des morceaux de peau, peu importe, envoyez ces échantillons, puis je vais les étudier dans mon laboratoire. Il a reçu 57 échantillons. Sur ces 57, il en a éliminé 27 parce que ces échantillons, au premier abord, on pouvait déterminer que c'était soit des fibres synthétiques ou on a pu identifier immédiatement l'animal d'où provenaient ces échantillons. Et les 30 échantillons qui étaient valables pour une analyse ADN bon, ont été soumis au test ADN et ils ont révélé qu'il n'y avait aucun de ces échantillons qui provenait d'hominidés inconnus. Donc, c'est zéro. Et ce qui était assez amusant, je dois t'avouer, il y a un truc là, qui est assez amusant là-dedans. Il y avait... on dit ça de toi à moi, là.
Oui, oui, entre nous deux.
Brian Sykes me racontait, parce que j'avais fait une entrevue avec lui, il me racontait, il dit, écoute, il dit, j'ai reçu des échantillons. Et là, le type me raconte une histoire qui va avec l'échantillon. Il dit, bon, voilà, je surveillais le Bigfoot, j'étais caché dans un abri, je vois le Bigfoot passer par-dessus une clôture avec du barbelé, il s'accroche dans la fameuse clôture en question, et là, une fois que la créature se soit éloignée, je me suis approché de la clôture où il y avait le barbelé, c'est là que j'ai trouvé une motte de poil accrochée après le barbelé. Ça, c'est l'histoire que le type raconte. Il soumet donc son échantillon à Brian Sykes. Brian Sykes l'analyse. Et là, il ne fait aucun doute. Là, hein? L'analyse révèle très clairement que les poils en question sont des poils de chien, par exemple. Donc, il n'y a aucun doute possible. Au niveau de l'ADN, l'identification, c'est 100%. Et Brian Sykes me racontait que quand il est retourné, il est allé porter, dans plusieurs des cas, il est allé reporter le résultat de l'échantillonnage, il est allé le reporter au propriétaire du matériel. Donc, il retourne voir le bonhomme en question, il lui dit, bon, ben voilà, voici le résultat, l'ADN montre que ce sont des poils de chien, par exemple. Mais malgré que Brian Sykes détenait la preuve matérielle que les poils en question étaient des poils de chien, qu'il n'y avait aucun doute sur l'origine
la provenance,
des poils.
Ouais.
Le type a dit merci, bonsoir, et la semaine suivante, dans un congrès sur le Bigfoot, racontait encore son histoire de Bigfoot qui chevauchait la clôture de barbelé puis qui avait laissé des poils dessus, sans mentionner qu'il y avait eu une analyse de Brian Sykes qui démontrait clairement
qu'il poursuivait avec son poils histoire. De chien. Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, on voit que, dans le fond, ces gens-là, dans bien des cas, je ne sais pas, c'est pour tout le monde, mais l'histoire, le narratif est plus important que le résultat de l'analyse. Le type, c'était raconter une bonne histoire, il la racontait, ça fonctionnait, les gens aimaient ça, puis c'était plus intéressant, c'est une histoire qui était plus intéressante que de dire simplement, ben voilà, c'était simplement des poils d'un animal bien ordinaire, puis rien de mystérieux là-dedans. Fait que bon, c'est un peu toujours la même chose. Et j'ai pu moi-même le constater quand Brian Sykes me racontait ça, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas surpris, parce que moi-même, je vois la même chose dans mon univers, hein. Comme journaliste, j'enquête sur des histoires, on découvre quel est le fond de l'histoire, quelle est la réalité derrière l'histoire, je la révèle. Bien souvent, une fois que je l'ai révélée ou que d'autres l'ont révélée, je ne suis pas le seul, mais que d'autres l'ont révélée, on a trouvé le poteau rose, puis on l'a dit. Hein. Et tout à coup, cette histoire-là tombe un peu dans l'oubli pendant quelques temps. Et après quelques années, elle revient, elle réapparaît comme si rien s'était passé, comme ça devient à nouveau un mystère. Hein. C'est la nouvelle histoire, c'est un mystère. Et ces gens-là sont tellement pas intéressés, tu dis oui, mais cette même histoire-là, là, il y a 3 ans ou il y a 4 ans, il y a des journalistes qui s'étaient attaqués à ça puis avaient révélé que la photo était truquée ou quoi que ce soit. C'est pas grave, le narratif est plus important que la vérité. Et donc là, l'histoire va ressortir à nouveau. Elle va faire un nouveau tour de piste jusqu'à ce que quelqu'un découvre enterré sous des piles de livres ou de journaux que l'histoire avait déjà été expliquée. Il va ressortir à nouveau l'explication. L'histoire va se réenterrer pour mieux ressusciter quelques années après à y reprendre un nouveau tour de piste. C'est un peu malheureux parce que finalement, on est toujours à la case départ, mais en même temps, ça nous révèle aussi la mentalité. Hein. C'est que dans le fond, ces gens-là vivent un peu dans un univers qui est le leur, et avec leurs croyances, leur créature, leur chimère, et ils sont bien là-dedans. Ça fait partie du discours de dire « nous voulons la vérité ». Mais dans le fond, ils n'ont pas envie d'avoir la vérité. Ils ont envie que ce monde-là se poursuive, un peu comme des enfants qui, en vieillissant, découvrent que le Père Noël n'existe pas. Mais ils veulent tellement continuer de croire au Père Noël qu'ils ferment les yeux et s'imaginent une espèce d'univers abstrait et on continue d'y croire. C'est un peu malheureux,
oui,
mais bon...
C'est facile aussi de trouver des preuves qui vont conforter notre histoire également.
Oui, tout à fait. Dans le cas de nos, si on revient à nos fameux ouais. Bigfoot en Ontario, donc on a eu ce rapport de la CTV, donc on parle de cela. Les journalistes sont allés rencontrer Josh Redstone, qui est un professeur de philosophie à l'Université Carleton. Et, bon, évidemment, ils ont présenté les éléments. Et ce fameux professeur Redstone, qui a donné d'ailleurs un cours sur les croyances paranormales, évidemment, a rejeté du revers de la main l'idée qu'il pouvait s'agir d'un Bigfoot. Là, c'est-à-dire, et il a rappelé que, et ça c'est vrai, on ne le mentionne pas suffisamment, que des études rigoureuses montrent très clairement que les observations de Bigfoot sont, disons, proportionnelles aux régions de l'Amérique du Nord, si on parle essentiellement du Bigfoot et du Sasquatch. Qu'en est-il là, du Yeti, de l'Almasti, je l'ignore, mais dans le cas du Bigfoot et du Sasquatch en Amérique du Nord, des recherches rigoureuses montrent que les observations de la créature sont proportionnelles aux régions où on retrouve beaucoup d'ours et de grizzlies. Donc, évidemment, plus il y a dans la région des ours, plus tu as des chances d'avoir dans la même région des observations de Sasquatch ou de Bigfoot. Alors, la question qu'on doit se poser, et c'est celle qu'on peut poser à nos auditeurs, c'est ou bien le Sasquatch, Bigfoot, partagent le même environnement que les ours bruns ou les ours noirs, ou bien les ours bruns et les ours noirs pourraient être à l'origine de nombreuses observations du Sasquatch ou du Bigfoot.
Il y a des chances.
Hein, il faut savoir par exemple, les ours bruns ou ours noirs, on le sait, peuvent se dresser sur le patte arrière et faire quelques pas maladroits quand même, mais quand même quelques pas, pour impressionner soit d'autres congénères, ou ils peuvent s'agripper un peu à l'écorce des arbres pour essayer de chercher des petites proies ou des trucs à manger. Là, tu sais, là, ils peuvent également se lever. On sait que dans le cas des ours noirs, ils sont souvent omnivores. Donc, ils mangent à peu près n'importe quoi. Ils peuvent se soulever pour manger des baies au bout d'une branche ou quelque chose comme ça. Là, t'sais. Donc, pour un observateur de loin, entre des arbres, il voit une espèce de créature poilue dressée sur ses pattes arrière. Bien, évidemment, il va penser peut-être à un Bigfoot. Donc, et ça, on a des études qui sont très rigoureuses là-dessus. C'est mené par des spécialistes de la faune, des groupes de chercheurs sur les environnements, l'évolution des espèces animales qui occupent des territoires en particulier. Et effectivement, quand on transpose les cartes qui montrent les populations d'ours bruns, d'ours noirs, et dans le cas plus nordique où on a des grizzlies, et quand on transpose ces observations-là sur une carte où il y a des signalements de Bigfoot, Sasquatch, on constate que ce sont à peu près les mêmes environnements qui sont marqués par ces observations. Donc, aux gens de tirer leurs conclusions. Mais c'était bon que notre histoire de Bigfoot en Ontario. Donc, les gens peuvent en tirer la conclusion qu'ils veulent, mais encore une fois, sans une preuve matérielle,
c'est très,
très difficile de pouvoir tirer des conclusions là-dessus, d'autant plus. Puis encore une fois, je sais que je me répète, mais quand on a fait cette émission sur le film Patterson, je pense que j'avais exprimé clairement que, et ça, je pense que les gens ne doivent jamais perdre cette réalité de vue, c'est qu'il n'existe dans le livre des fossiles, il n'existe aucun animal ayant ressemblé de près ou de loin au Bigfoot. Parce que souvent, les gens qui défendent le Bigfoot, ils nous disent « Ben ouais, le Bigfoot, c'est faux, il y a déjà... » Parce que la question est toujours « Y a-t-il un ancêtre? » Hein? Bon,
oui,
tu sais, est-ce que l'éléphant n'est pas apparu sur une feuille de chou, là? L'éléphant, il y a eu des ancêtres, le mammouth, puis bon, etc.
Il y a une historique.
Donc, on est capable de retrouver dans le grand catalogue des fossiles, on est capable de trouver la chaîne qui permet d'arriver à l'espèce actuelle. Quels ont été ses ancêtres? Comment l'espèce a évolué pour arriver à l'espèce qu'elle est aujourd'hui? Dans le cas du Bigfoot, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'en dehors des témoignages de gens qui disent « j'ai vu ces hominidés inconnus », on n'arrive pas à trouver dans le livre des fossiles quelque chose qui ressemble de près ou de loin au Bigfoot. Et là, c'est un gros mensonge, celui de prétendre, parce que les amateurs qui défendent ce dossier-là, bec et ongle, nous disent « ben c'est faux, parce que dans l'histoire, il y a eu quand même une créature qui ressemblait à ça, et c'était le gigantopithèque. Le gigantopithèque était un grand primate qui vivait en Asie, principalement du côté de la Chine, et dont les derniers représentants sont disparus il y a à peu près 35 à 40 000 ans. » Et ce gigantopithèque, ben, c'était un grand singe qui mesurait entre 2 et 3 mètres de haut. Alors là, on se dit, ben voilà, c'est un bon candidat pour être le Bigfoot. Pas du tout. Parce que ce que ces gens-là ne nous disent pas, c'est que le gigantopithèque était un animal qui faisait partie de la catégorie des grands singes. Donc, il appartenait à la même famille que les gorilles ou les chimpanzés, par exemple, ou les orang-outans. Et ces animaux-là, ce qui les caractérise, c'est qu'aucun d'entre eux ne marche debout. Hein, le gigantopithèque, comme le gorille, comme le chimpanzé, marche à quatre pattes en s'appuyant sur leurs poings lorsqu'ils se déplacent. De temps à autre, soit pour impressionner des congénères, ou soit pour impressionner des proies hein, ou des prédateurs, ils vont se soulever sur leurs membres de derrière, mais en se dandinant de gauche à droite, en faisant quelques pas maladroits. Une créature comme le Bigfoot qui marche comme un homme de manière plantigrade, ça ne ressemblait pas au gigantopithèque. Oubliez ça, le gigantopithèque ressemblait pas à ça. Donc, et on n'arrive pas à trouver ça. La seule espèce animale, puis entre, je mets le animal entre guillemets, la seule espèce animale à avoir jamais marché de manière plantigrade debout, c'est la catégorie homo, les hommes. Or, le Bigfoot n'est pas de cette catégorie-là. C'est pas un homme. On voit bien que c'est pas un homme. Parce que même, il faut quand même oublier aussi, on avait une vision dans les années 50 où on imaginait l'homme du Cro-Magnon ou l'homme du Néandertal comme entièrement couvert de poils, hein, avec son bâton, bouhouhou, dans une caverne. Bon, disons que les recherches en paléontologie, en anthropologie des 30 ou 40 dernières années montrent un tableau très différent. Les hommes de la préhistoire, comme on disait, les hommes des cavernes, étaient beaucoup plus humains, étaient beaucoup plus semblables à nous qu'on l'imaginait. Hein. Dans le fond, ils avaient un peu la barbe hirsute, un peu plus de poils sur la poitrine, mais à part de ça, ils avaient un peu une mâchoire un peu plus prononcée, mais ils étaient très proches de ce qu'est aujourd'hui l'Homo sapiens. Là. Donc, l'image de ces brutes de la préhistoire, là, faut oublier ça. Ça, c'était bon dans les livres et le cinéma des années 40-50, mais la réalité, c'est pas ça. Donc, l'idée d'une grande créature, mi-homme, mi-gorille, qui marche parfaitement debout, très équilibrée, ça n'a jamais existé. Donc, il faudrait croire que le Bigfoot, ben, il est sorti de nulle part, il apparaît sous une feuille de chou, et puis ben voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que ce dossier-là est un dossier qui était excessivement fragile, et sans une preuve matérielle, ben, même si les témoignages se multiplient, même s'il y a du folklore qui nous parle de ça, et moi-même, quand je suis allé dans l'Ouest canadien, j'ai enquêté sur le Bigfoot, j'ai même participé à une aventure Bigfoot, hein, en 2004 ou 2005, là, une expédition Bigfoot dans les forêts du nord de la Colombie-Britannique, là, près de la frontière du Yukon. J'ai participé à une expédition comme celle-là. Et j'ai pu rencontrer plein de communautés autochtones qui me racontaient des légendes. Et ce que je me suis aperçu au gré de mes conversations avec eux, c'est que leurs légendes ne sont pas tout à fait des légendes de Bigfoot.
Ça, OK.
Tu sais, je comprends ça. Elles sont un peu déformées, par exemple. Bon, par exemple, les Sasquatch viendraient, par exemple, d'un mot qu'on appelle Sasquette. Et les Sasquettes, c'était... Il y avait une vallée. Hein, je te raconte ça rapidement, parce que là, je sais que le temps, il fait... On a brûlé notre temps, là. Mais les Sasquettes, par exemple, c'était une vallée où les jeunes hommes allaient pour devenir des hommes. Hein, ils partaient, ils étaient loin de la communauté. Ils allaient dans cette vallée-là. Puis il fallait qu'ils apprennent à chasser, puis tout ça. Donc, c'était le passage. C'était un passage rituel. Ils devenaient des hommes. Et certains d'entre eux revenaient dans le village après avoir vécu pendant un mois dans cette vallée-là. Ils avaient appris à se débrouiller. Et certains d'entre eux ne revenaient jamais. Et ceux qui ne revenaient jamais, on considérait qu'ils étaient ou bien morts ou qu'ils avaient décidé d'adopter la vie sauvage, tu comprends? De rester des ermites dans la vallée. Et ces ermites de la vallée devenaient des hommes sauvages, ils devenaient les Sasquettes. Donc, les Sasquettes, c'était les Sasquatch, mais tu comprends?
Non, je comprends très bien.
C'est du tout la même chose. Entre la personne qui a décidé de vivre en ermite dans une forêt, qui devient un homme sauvage, ne fait pas de lui une créature de 2,50 m recouverte de poils, il ressemblait à un grand gorille. Là, donc, on étirait très, très loin la sauce pour essayer de faire coller ça aux légendes du Bigfoot qu'on retrouve véhiculées dans la littérature essentiellement occidentale.
Fort intéressant. Voilà. Souvent, les légendes, c'est ça, vont découler de la fameuse du fameux jeu du téléphone et puis
tout à fait,
déformé
tout à fait.
Au fil des années, mais ça fait beaucoup de sens tout ça.
Oui, absolument. C'est donc on comprend un peu plus d'où ça vient, ouais. L'origine de tout ça. Fait que faut faire attention pour pas trop pour pas tourner les coins ronds. Si on veut évoquer les légendes autochtones pour justifier l'existence du Bigfoot, encore faut-il bien les rapporter et bien comprendre quelle est la symbolique qui se cache derrière ça.
Christian Page, on va faire une courte pause. Au retour, plusieurs autres sujets. Je ne sais pas lequel tu veux aborder tout de suite au retour.
Ben écoute, je vais te parler un peu du Chupacabra. Puis après, j'aimerais, s'il nous reste un petit peu de temps, te parler d'une nouvelle étude sur les expériences de mort imminente et des perceptions que l'on a par rapport à ça.
Excellent.
Donc ça serait mes deux grands sujets. Donc, on fait ça après la pause.
Tout à fait. Bougez pas, vous êtes dans les Radio X Files sur les ondes de choix 98 ans Radio X.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Ray, The Sports. Dans Morel Live. Et Will est en direct. Ray, The Sports.
Radio X.
Présenté par Unicanva.
Chez nous, vous aurez une variété de produits hors du commun. Toit rigide en acrylique, verrière, auvent rétractable ou mur sur rouleau. Unicanva avec un S.com.
Bonjour, vous cherchez un véhicule en particulier?
Je regarde pour un véhicule sport avec beaucoup d'espace intérieur, surtout pour les passagers.
Ah, facile. Kia K4 Hatchback.
OK, mais la polyvalence pour la ville, plein de technologies.
Vous pourriez essayer le Kia Seltos?
Puis si je veux aller un peu plus gros, comme en vue d'une famille?
Peut-être un Kia Sportage.
Hey, vous avez vraiment une Kia pour tout?
Pas mal, oui.
Trouvez la Kia qui vous convient et profitez d'offres exceptionnelles à la location et au financement ce printemps. Visitez kia.ca pour les détails.
Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Chez Payworks, nous le savons bien. La paye n'attend pas et vous devriez pas non plus. Depuis plus de 20 ans, nous soutenons les entreprises canadiennes avec un véritable service de la paye. Une expertise en conformité au Québec et une plateforme intégrée pour les payes, les RH et le suivi du temps. Bilingue et local avec des bureaux partout au pays, dont Montréal. Mettez fin aux balades dans les centres d'appel et obtenez des réponses quand ça compte. Visitez meilleurservice.payworks.ca.
Chez La Tulipe, je fais ce que j'aime. Je profite d'une quantité incroyable de produits soldés. Je découvre une foule de nouveautés partout. Et grâce à mes achats de pêche, mon permis provincial est gratuit. Tout ça en magasin et en ligne chez La Tulipe.
Besoin d'une grande capacité dans un petit tracteur? La série BX de Kubota est faite pour vous. Performante toute l'année, de la tonte au déneigement. En ce moment, achetez au comptant et économisez 4000 $. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Chez Sport Expert et Atmosphère, achetez ce qu'il vous faut pour bouger ce printemps. Obtenez 25 $ en carte promo à l'achat de 125 $. Détail en magasin. Choisissez Sport Expert d'ici.
Envie de profiter pleinement de votre course cet été, beau temps, mauvais temps? Avec Concept Piscine Design, découvrez notre choix de gazebo et pergola à partir de 1399 $. Et ce n'est pas tout, plein de nouveautés viennent d'arriver en magasin. Concept Piscine Design vous offre la sélection parfaite de meubles de jardin pour créer votre espace extérieur. Avec le financement disponible, votre cours de rêve est plus accessible que jamais. Concept Piscine Design, autoroute Henri IV, sortie Sainte-Geneviève, installateur de bonheur depuis plus de 35 ans.
Depuis plusieurs années, la lunetterie Bellan et Marie-France Pro opticienne vous offrent toujours le meilleur prix avec forfait verre et monture. Simple vision à 99 $ et progressif à 249 $. C'est juste incroyable! La lunetterie Bellan, service qualité bas prix.
Depuis plus de 11 ans, Roulez Passion transforme vos événements en souvenirs légendaires. Arrivez avec éclat à votre bal de finissant ou évadez-vous pour une balade romantique au volant d'une Lotus, Porsche, Lamborghini ou de notre nouvelle Corvette Z06. Louez le prestige à partir de 299 $ par jour en Mustang et vivez l'exception avec notre McLaren Artura. Roulez Passion, la route est aussi belle que la destination. Réservez sur roulezpassion.com ou passez-nous voir au 2323 boulevard du Versant Nord.
Quand ça brise, ça prend quelqu'un qui connaît ça. Thermos de fenêtres, pièces, moustiquaires, Vitrerie Globale, c'est du solide. Pas de flafla, juste du travail bien fait. Vitrerie Globale, de vrais vitriers. Vitrerieglobale.ca.
Depuis plus d'un siècle, les Puits du Québec ouvre la voie dans le forage de puits artésiens. Avec une expérience centenaire, nous sommes à l'avant-garde, surpassant chaque défi. Avec notre savoir-faire, notre rigueur, notre technologie, des équipes expérimentées et compétentes, rien ne nous arrête. Vous pouvez faire confiance au Puits du Québec. Pour votre puits artésien, géothermie, système de pompage, hydrofracturation, nettoyage et pompage, exigez la qualité avec les Puits du Québec. Puis avec un S.com.
Pinata, c'est le goût de la fête. Mise en bouteille. Sucrée, surette et délicieuse. C'est une explosion de saveurs qui fera lever le party. C'est assuré. Que tu préfères l'intégrer dans tes cocktails ou la consommer sur glace, on te promet que tous tes invités vont l'adorer. Nos quatre saveurs inspirées par les bonbons sont pêche surette, cerise atomique, pamplemousse surette et banane guimauve. Tu peux les trouver à la SAQ et à la distillerie Stadacone. En plus, plein de recettes de cocktails sont disponibles au stadacone.com. Santé!
Le 28 avril, c'est le jour de deuil.
Une journée internationale consacrée à la mémoire des personnes blessées ou décédées à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Au Québec, on compte chaque année plus de 100 000 victimes de lésions professionnelles et plus de 200 décès. C'est beaucoup trop. En collaborant à la démarche de prévention mise en place par l'employeur, nous contribuons à rendre nos milieux de travail plus sains et sécuritaires. Le 28 avril et toute l'année, priorisons la prévention. Un message de la CNESST.
Quand j'avais des douleurs aux genoux, j'en parlais à tout le monde. À mes collègues.
Bonjour tout le monde, j'ai mal aux genoux.
À mon chien.
J'ai mal aux genoux.
Mais le mieux, c'est d'en parler à son médecin et de demander Cingal. Le seul traitement qui, en une seule injection, agit rapidement et soulage à long terme les douleurs causées par l'arthrose du genou. Allez sur Cingal.ca, C-I-N-G-A-L.ca, afin de localiser une clinique. Cingal. Pour ne plus parler de vos douleurs aux genoux, parlez-en à votre médecin. Cingal peut ne pas convenir à tout le monde. Si vous avez des questions relativement à ce produit, consultez votre médecin.
La Fondation Albatros est fière d'annoncer l'ouverture de la section gazonnée du grand événement Albatros. Profitez d'une soirée en compagnie de Bruno Pelletier et de son invité spécial, Mélissa Bédard. Billets à partir de 45 $. Détails sur amphithéâtrecogeco.com.
Morée live.
Andréane Barbeau, comment ça va? Félicitations.
Merci beaucoup. Mais il y en a encore du travail à faire. Puis si je peux contribuer à ça en démontrant que oui, c'est le fun d'avoir des femmes à l'écran, puis ça en prend toutes les jeunes filles qui veulent faire du sport, là, faites-en. C'est très possible d'en faire. C'est pas vrai que parce que c'est un milieu majoritairement masculin, c'est synonyme de milieu toxique. C'est pas vrai.
Morée live.
Lundi au vendredi, 6h.
Radio X.
Présenté par Multiconfort FP. En avril, obtenez 15% de rabais sur toutes les installations et 6 mois sans paiement ni intérêt sur certains produits.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files en ce vendredi soir. Et juste avant la pause, Christian Page, on disait que tu souhaitais nous parler un peu de du chupacabra.
Oui, le chupacabra.
Il frappe encore, c'est ça?
Le chupacabra frappe encore. Oui. Écoute, je me suis dit, puisqu'on parle du Bigfoot et des observations récentes du Bigfoot, j'ai dit, c'est en fouille dans le catalogue de la cryptozoologie, parce que, bon, notre deuxième, sur nos quatre émissions thématiques dans un mois, la deuxième, celle qu'on aborde aujourd'hui, c'est toujours parapsychologie et cryptozoologie. J'ai dit, comme on va consacrer une partie de l'émission à notre truc sur le Bigfoot, j'ai dit, ce serait amusant de parler d'une autre créature également qui fait parler d'elle au cours des dernières semaines, qui est le chupacabra. Chupacabra, la façon dont tu l'as prononcé, je crois distinguer que c'est la première fois que tu en entends parler.
Je n'ai pas entendu parler souvent.
Donc, le chupacabra, c'est un mot espagnol qui veut dire le suceur de chèvre. C'est pas un nom, c'est pas la trouvaille du siècle. Hein. Bon, le chupacabra, pour te situer un peu son histoire, il apparaît, ça fait partie, c'est une espèce de créature mystérieuse, mais qu'on retrouve essentiellement dans les pays d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, où il y a des populations qui sont très hispanophones. Donc, par exemple, aux États-Unis, la légende du chupacabra, elle est très présente, mais elle est présente, par exemple, dans le sud du Texas ou dans le sud de la Californie, là où il y a de fortes populations, ou encore en Floride, où il y a de fortes populations qui sont d'origine hispanophone. C'est la même chose pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, incluant également le Brésil, même si au Brésil, on parle le portugais, mais la légende du chupacabra est très présente. Donc, cette histoire-là apparaît, quoi qu'il y ait eu des précédents, là, je me rappelle dans les années 70, avoir vu dans la littérature sur les phénomènes paranormaux, on parlait du vampire de Moka, donc une créature qui, la nuit, s'attaquait au bétail et buvait leur sang. Donc, d'où le nom vampire de Moka. Mais le chupacabra est un peu l'équivalent. Donc, après la disparition un peu dans la littérature, on a vu ce phénomène du vampire de Moka a été à un moment donné éclipsé. Et après 10 ou 15 ans d'éclipse, on voit apparaître le chupacabra. Donc là, on est rendu au milieu des années 1990. On est sur l'île de Porto Rico et là, on a des agriculteurs, des fermiers qui vont rapporter que certains de leurs animaux ont été tués, mutilés et vidés de leur sang. On parle essentiellement de petits animaux, là, soit des chèvres, des poulets, par exemple, et d'où le nom de chupacabra, qui veut dire le suceur de chèvres, parce que, bon, il y a beaucoup d'élevage de chèvres à Porto Rico, donc l'animal va s'attaquer à eux. Et au départ, c'est assez amusant parce que c'est un animal qui est à géométrie variable. Hein. Au départ, part, oui. Le premier récit que les gens nous parlent du Chupacabra, ils nous parlent d'une créature qui ressemble un peu à une gargouille. Une espèce de créature avec une tête de lézard, des espèces de pics sur une crête dorsale qui ressemble à des pics, des petites pattes en avant qui font penser aux pattes d'un tyrannosaure et des pattes arrière très puissantes qui lui permettent de sauter par-dessus les clôtures. Tu vois un peu l'image cauchemardesque de la créature. Oh, oui, dans certains cas, il y en a même qui parlent que la créature aurait des ailes un peu membraneuses, comme celles d'une chauve-souris. Et avec le temps, la créature va se transformer. Donc, on a des observations sur l'île de Porto Rico, et avec les mois, ces observations vont se déporter en Amérique centrale, dans le sud des États-Unis, là où il y a des populations hispanophones importantes. On parle, comme je l'ai mentionné, la Floride, le sud du Texas et le sud de la Californie. Et peu à peu, avec ces récits, la créature va se transformer. Elle va devenir, elle passe de cette fameuse gargouille à une sorte d'animal qui est à mi-chemin entre le chien et la bête sauvage. On sait donc pas trop, là, mais elle a perdu un peu son aspect de gargouille. Elle ressemble un peu plus à un chien. Et puis, bon, après que la presse en ait beaucoup parlé, là, on est à fin des années 90, début des années 2000, à un moment donné, le phénomène s'est un peu étiolé. Ce qui veut pas dire que dans les communautés hispanophones, la créature n'est pas demeurée omniprésente. Elle est devenue un peu... nous, on a le Bigfoot, ben eux, ils ont le Chupacabra. Tu vois un peu?
Oui, je comprends.
Et donc, régulièrement, la presse espagnole ou de langue espagnole, que ce soit au Mexique, que ce soit en Amérique du Sud, au Pérou, ou en Argentine, dans ces pays-là, la créature réapparaît et puis la presse, ça abonde de ces témoignages-là. Et la créature, ben, comme on parlait du Bigfoot, ben, je dis, tiens, je vais dire un petit mot sur le Chupacabra, hein, pour ceux qui s'intéressent à la cryptozoologie. Donc, on a eu toute une série d'observations assez importantes depuis le début de l'année 2026. Donc, l'affaire du Chupacabra, bon, d'abord, on a une série d'observations qui se sont produites en Argentine. On était au début du mois de février. On avait des producteurs agricoles de la région de Huerto Tirol, qui est en Argentine, comme je l'ai mentionné, qui ont rapporté la mort de plusieurs de leurs animaux de ferme. Ça va, bien sûr, du poulet à des chèvres, en passant même par des vaches. Alors, les animaux, disait-on, avaient été attaqués, portaient des plaies à la gorge, ils avaient été vidés de leur sang. Et évidemment, très rapidement, on s'est mis à parler du Chupacabra. Il y a même un témoin qui s'est fait connaître, un habitant d'un petit village qui s'appelle Swans Pena, qui a dit avoir été témoin de l'apparition du Chupacabra. Donc lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il était chez lui. Depuis quelques jours, on parlait beaucoup dans la région de ces attaques du Chupacabra. Et alors qu'il était chez lui, il entendait un bruit sur le toit de sa ferme. Il n'est pas sorti à l'extérieur parce qu'il craignait quelque chose de mystérieux. Donc, il est resté à l'intérieur. Il a quand même tiré les rideaux pour regarder à l'extérieur. Et là, il a vu sauter dans la cour, comme si la créature se trouvait sur le toit de sa maison. Il a vu sauter dans la cour une créature qu'il a décrit comme étant une espèce de grand chien. Au départ, il dit c'était comme un grand chien. Les pattes avant étaient plus longues que les pattes arrière. Et sur le coup, j'ai pensé à un loup-garou. C'est quand même amusant que, tu sais, tu veux dire, ta première réaction, c'est « ça doit être un loup-garou ». Tu sais, il dit « j'ai pensé que c'était un loup-garou ». Et ensuite, la créature s'est retournée, a fait face à la fenêtre d'où lui observait la scène. Et là, il a constaté que la créature avait un visage qui était tout à fait horrible, qui était ni celui d'un chien, ni celui d'aucun autre animal connu, mais plutôt un visage monstrueux, une créature étrange. Donc là, il a compris qu'il était en présence d'un Chupacabra. La créature s'est éloignée, est allée dans une zone d'ombre de sa cour où il l'a perdu de vue. Et puis le lendemain, en inspectant sa ferme, il a trouvé son chat qui avait été assassiné près de la... qui avait été tué près de la ferme et avait été mutilé notamment aux organes génitaux. Donc, il a conclu que l'animal avait dû être victime du mystérieux Chupacabra. Et là, à partir du moment où on en parle assez de façon assez ouverte dans les médias, les médias brésiliens, pas brésiliens, mais argentins du nord du pays, parlent beaucoup de ces apparitions, voilà que soudainement, dans, de l'autre côté de la frontière, au Brésil, à ce moment-là, des animaux vont également être rapportés comme étant, comme ayant été vidés de leur sang, morts et mutilés. Là, on est rendu à la mi-mars. Et l'endroit qui est particulièrement frappé, c'est un État qui s'appelle l'État de Alagoas. C'est un État côtier dans le nord du pays. Et donc là, les agriculteurs vont rapporter également de la mort d'animaux, retrouvés morts, mutilés, vidés de leur sang, toujours à peu près le même scénario. Et éventuellement, les autorités vont se mêler de la situation. Et aux dernières nouvelles, on parlerait d'une centaine d'animaux qui auraient été tués de cette manière par un mystérieux prédateur. Il faut quand même dire que les autorités, eux, n'ont pas basculé dans l'histoire du chupacabra, mais parlent plutôt...
Cherchaient des réponses véritables.
Cherchaient des réponses plus vraisemblables. Mm-hmm. Et sur des images que j'ai pu voir, d'ailleurs, des images de caméras de sécurité qui étaient placées sur une ferme, on voit très clairement deux animaux qui s'éloignent dans l'obscurité et la démarche, le mouvement des animaux font penser à des chiens sauvages. C'est exactement ce que va conclure aussi les autorités, qu'il doit s'agir de hordes de chiens
un
sauvages.
Un peu comme les loups ici, là, ouais.
Voilà, qui s'attaquent au bétail. Et les agriculteurs ont beau prétendre, non, les chiens ne feraient pas ça, les chiens mangeraient les chairs, mangeraient l'animal, ce qui n'est pas vrai non plus. Quand on regarde le comportement de chiens sauvages, bien souvent, ils vont développer en meute une espèce de goût pour simplement tuer, hein, le goût de tuer. Donc, ils vont s'introduire sur des terres, sur des fermes, ils vont tuer les animaux par simple plaisir de tuer sans dévorer la proie. Et ça, c'est bien connu dans le comportement éthologique, là, des comportements animaliers. Là. On sait que les chiens sauvages font ça. Donc, les autorités ne sont pas surprises de voir que des chiens sauvages pourraient entrer sur des fermes, s'attaquer à des animaux, et puis ensuite retourner dans les bois, dans la forêt, en laissant derrière eux là, un véritable carnage. Donc, c'est un peu la conclusion auquel arrivent les autorités. Inutile de dire que les fermiers, très superstitieux, eux, préfèrent adhérer à l'idée qu'il s'agit du mystérieux chupacabra. Et ils se sont... Comme les autorités ne fait un peu la sourde oreille à leurs doléances, ces gens-là ont commencé, là, aux dernières nouvelles, les derniers articles que j'ai lus sur le sujet, les agriculteurs ont commencé à s'organiser en petites bandes et ils patrouillent le soir avec des bâtons, des armes. S'ils voient le chupacabra, ben, ils vont l'abattre. Et certains ont même renforcé leurs clôtures, ont ajouté des clôtures sur leurs terres pour interdire l'accès, rendre à tout le moins l'accès plus difficile pour le chupacabra. Donc, attendons de voir les résultats. Est-ce que l'un des agriculteurs va tuer un chupacabra? J'ai des sérieux doutes, mais c'est un peu ce qui se passe du côté de l'Amérique du Sud avec les apparitions du chupacabra. Cela étant dit, je vois qu'il nous reste un 5-6 minutes. Là.
Absolument.
Je vais te parler d'une méta-analyse. Méta-analyse, c'est de prendre au moins deux études, sinon plusieurs études, et regarder un peu les données que donnent ces travaux-là. Et c'est un exercice qui vient d'être fait avec deux études scientifiques. Les deux avaient été réalisées par des chercheurs de l'Université Massey en Nouvelle-Zélande. Les deux études, je vais te les nommer là, dans leur titre anglais, c'est « Trauma and Art Transcendences, the relationship between near-death experience and dreaming, hein, donc le trauma ou la transcendance, la relation entre les expériences de mort imminente et le rêve. Et l'autre étude est Outside the Matrix, Dreaming After Near-Death Experience, a Qualitative Analysis. Donc, en dehors de la matrice, le rêve après les expériences de mort imminente, une analyse qualitative. Donc, ça, c'est les deux études. Elles ont été menées au cours de l'an dernier, donc en 2025. Encore une fois, je le répète, par des chercheurs de l'Université Massey, on s'est intéressé à comment les gens rêvent après avoir vécu une expérience de mort imminente.
Okay.
Ça peut paraître un peu anodin, mais ça ne l'est pas. Alors, les expériences de mort imminente, je rappelle pour les gens qui nous écoutent de quoi on parle, ce sont ces expériences au seuil de la mort. Donc, des gens qui, dans des états cliniques, là, bon, on les amène à l'hôpital, il y a un arrêt cardiaque, etc. Ils sont déclarés en état de mort et on réussit parce que la mort est un processus qu'on peut ultimement, si on fait rapidement, on peut le renverser. Donc, la personne, au moment où le cœur arrête, si on laisse comme ça, bien évidemment, il ne pourra pas le ramener, là. Mais si avec, des médicaments et puis, un acharnement médical, on peut le ramener à la vie. Et donc, on a fait une étude, et c'est ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Donc, ces gens-là ont fraudé l'expérience, ils sont morts. Mais en même temps aussi, c'est pas l'expérience de mort imminente n'est pas le fait d'être près de la mort, mais c'est le fait que durant cette période, ces gens disent avoir vécu une expérience un peu surnaturelle. Donc, ils ont eu le sentiment de quitter leur corps, d'avoir voyagé dans un autre espace. Dans des cas, ils ont rencontré des gens. Dépendamment de leur religion, ils vont les associer soit à des êtres divins ou à des proches décédés. Là. C'est une question de langage. Et puis, à un moment donné, ils ont vu une espèce de lumière et puis ils ont réintégré leur corps. Donc ça, c'est l'expérience de mort imminente. Donc on a fait une étude, les deux études ont été menées auprès de 138 personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, c'est-à-dire qu'ils sont passés près de la mort, ils ont fait le fameux voyage, appelons ça comme ça entre guillemets. Ils ont également, dans l'étude, il y avait 45 personnes qui avaient frôlé la mort, qui s'étaient retrouvées en état de mort clinique, mais qui ne gardaient aucun souvenir d'une expérience de mort imminente. Simplement que par un certificat médical, ils disent, j'ai été admis à l'hôpital, je suis mort pendant 4 minutes avant qu'on me ressuscite, mais je me souviens de rien. Donc, il y avait 45 personnes qui appartenaient à cette catégorie, et puis 129 personnes qui avaient vécu ni l'un ni l'autre. Donc, ils n'étaient pas passés près de la mort, puis ils n'avaient pas vécu d'expérience de mort imminente non plus. Donc, ça a été un peu ça a été l'échantillonnage. On a mené l'étude auprès de ces gens-là, et on a voulu savoir comment ils rêvaient. Et ce qu'ils ressentent de cette étude, et c'est assez intéressant, ils ont découvert que les gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente, après l'expérience, c'était des gens qui gardaient de meilleurs souvenirs, à partir de là, qui gardaient de meilleurs souvenirs de leurs rêves. Par exemple, des gens disaient, moi, là, je rêvais jamais avant. En fait, c'est faux, on rêve tous chaque nuit, mais bien souvent, on se rappelle pas de nos rêves. Donc, ces gens-là disaient, ou bien je rêve jamais, ou je peux me rappeler peut-être une fois par mois d'un rêve que j'ai fait. Et puis, à partir du moment où ils ont vécu cette expérience de mort imminente, ils se sont mis à avoir des souvenirs beaucoup plus intenses de leurs rêves et de manière beaucoup plus permanente. Donc, ils pouvaient se rappeler, là, une nuit sur deux, ils se rappelaient de leurs rêves. Ce qu'on a remarqué également, c'est que les rêves des gens, on comparait tout l'échantillonnage, les gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente avaient des rêves qui fondamentalement témoignaient d'une image beaucoup plus positive que les autres personnes. Donc, autant ceux qui avaient été près de la mort, mais qui n'avaient rien vécu, aucun voyage mystérieux ou onirique, ni non plus ceux qui avaient rien vécu. Donc, quand on comparait les rêves, clairement, ceux qui avaient vécu des expériences de mort imminente avaient des rêves beaucoup plus positifs. Ils avaient également beaucoup plus de rêves lucides, même prémonitoires. Donc, les rêves lucides, c'est au moment où tu rêves et tu sais dans ton rêve que tu es en train de rêver. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé.
Oui,
l'impression, tu tombes en bas d'un édifice puis tu dis, c'est pas si grave que ça parce que ce n'est qu'un rêve. Donc, c'est ce qu'on appelle le rêve lucide, c'est que le sujet sait qu'il est en train de rêver. Ça arrive assez rarement, mais les rêves lucides, ça arrive à tout le monde. Mais on a constaté le nombre de rêves lucides chez les gens qui disaient avoir vécu des expériences de mort imminente était anormalement élevé. Et ce qu'on a remarqué également, c'est que la qualité de ça, parce que dans l'ensemble, ce sont des éléments de qualité, meilleur souvenir des rêves, rêves plus positifs, rêves lucides. Donc l'augmentation de cette qualité du rêveur, elle était également en fonction de la transformation de la personnalité de l'individu. Les gens qui vivent des expériences de mort imminente vont souvent, après, avoir une transformation radicale de leur personnalité. Des gens qui étaient, par exemple, très imbus d'eux-mêmes ou très portés vers l'argent, par exemple, leur préoccupation, c'était le matériel, vont développer des personnalités beaucoup plus éclatées, beaucoup plus artistiques, moins matérialistes. Donc, au fur et à mesure où la personnalité se transforme, on voit que la qualité du rêve devient fonction de cette transformation. Et si on a des preuves statistiques très éloquentes, parce que les deux études que j'ai consultées, c'est très éloquent. Là, j'essaie de la résumer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est très éloquent. Cet élément-là est clairement démontré. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ça se produit. On n'arrive pas à comprendre quelle est la mécanique, que ce soit une mécanique psychologique ou que ce soit une mécanique neurologique. Les scientifiques n'ont absolument aucune idée de
pourquoi
ça se produit. Okay. Pourquoi ça se produit. Et quel est le lien entre l'expérience de mort imminente et cette soudaine transformation à la fois du rêve et de la personnalité c'est quelque chose. Pour ce qui est de la personnalité, on peut toujours comprendre que la perception de la mort peut avoir amené une transformation de la personnalité. Moi-même, par exemple, je n'ai plus la même personnalité aujourd'hui que j'avais avant l'an 2020, où j'ai été diagnostiqué d'un cancer agressif de stade 3. Aujourd'hui, ma vision, elle est différente.
Oui.
Donc, on peut comprendre que face à la mort, nos comportements vont changer. Mais comment peut-on expliquer que ces comportements vont avoir une influence sur le rêve, de quelle façon ça se produit et quelle est la mécanique sous-jacente à ça? On n'en a pas la moindre idée. Mais ça nous montre encore une fois qu'il y a beaucoup de recherches à mener autour de ces expériences de mort imminente, qu'elles soient simplement oniriques ou qu'elles soient bien réelles.
Fort intéressant encore une fois, Christian Page, cette édition des Radio X-Files. On va se retrouver vendredi prochain et d'ici là, je souhaite de passer un agréable week-end parce que là, c'est presque l'été, là, selon la météo.
Ouais, puis supposé de faire beau. Fait que là, je vais aller me balader avec ma Camaro. Je pense
absolument,
qu'on va être plaisir,
ça sera le temps.
Ouais, absolument.
Christian Page, merci. Bon week-end.
Ça fait plaisir. Bon week-end. Ouais.
C'était les Radio X-Files sur les ondes de choix 98 Radio X. Au retour, c'est la sexploratrice qui s'installe.
Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X. Cette semaine, écoute Ouellet en direct.
Tu pourrais gagner l'une des 5 paires de billets avec passe VIP qui te donne l'accès au Pit Party avec rencontre avec les pilotes au Monster Spectacular. C'est le spectacle familial par excellence avec Monster Truck, Freestyle Motocross et bien plus. Fais vite avant que ce soit encore sold out. Monster Spectacular, le 30 mai au Centre Vidéotron. Billets en vente sur Ticketmaster.ca.
De ce temps-ci, on y va tous de nos prédictions. Sur la météo, qui fera les iris? Puis, est-ce que Fred la Marmotte avait raison sur l'arrivée du printemps? Pendant l'événement La Totale chez les concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram, on vous fait une prédiction qui, elle, tient vraiment la route. Avec la